Et vous êtes à l'écoute de votre station numérique par excellence, fidèleauposte.com. Et voici maintenant votre émission Voyage-Voyage avec votre animateur André Bouchard. Bienvenue, chers internautes, sur votre station numérique fidèleauposte.com. Ici André Bouchard, votre animateur de Voyage Voyage. Et voici les sujets que nous avons sélectionnés avec plaisir pour aujourd'hui, en espérant que vous saurez les apprécier. Eh bien, d'abord, une exposition typique, Umbra, au Grand Théâtre de Québec, avec Ariane Plante. Aussi, l'Afrique du Sud, avec le grand aventurier voyageur Sylvain Guillemin. Par la suite, à la CEPAC pour la relâche scolaire avec Simon Boivin. Et nous compléterons au Musée de la biodiversité de Bécancour avec Coralie Lacourcière. Là-dessus, ici André Bouchard qui vous souhaite bonne écoute, chers internautes, sur les ondes de votre radio numérique fidèle au poste pour votre émission Voyage, Voyage. Et maintenant, nous nous transportons au Grand Théâtre de Québec en compagnie d'Ariane Plante, qui est commissaire aux expositions, qui a bien voulu nous accorder cette entrevue et que j'ai le plaisir de saluer. Alors, bonjour Ariane Plante.
Bonjour.
Madame la commissaire, quand on parle d'abord de ce projet Umbra au Théâtre de Québec, là, c'est quoi ce projet?
En fait, il s'agit d'une installation technologique qui s'inscrit dans le cadre de nos expositions en arts technologiques qu'on a développées au Grand Théâtre de Québec et qui sont présentées dans un espace accessible au public qui vient voir un spectacle, mais aussi au grand public qui n'aurait pas de billet de spectacle et qui voudrait venir voir l'œuvre. Alors, c'est une œuvre monumentale de l'artiste d'origine sri-lankaise qui est installée à Montréal. Elle s'appelle Pavithra Wickramasinghe. Et c'est Umbra, l'obscurité et l'absence de lumière. Donc, c'est une installation qui va allier trois mobiles. C'est des mobiles géants qui sont, grâce à des éclairages dirigés, qui vont créer des ombres et des effets de reflets, de réfraction de lumière colorée sur les différentes surfaces de l'espace. Donc, ce sont des mobiles qui sont en rotation, une très lente rotation, et qui occupe près de 40 pieds de haut là, dans l'espace d'exposition.
Et qu'est-ce qui vous a amené justement à mettre ce genre en fonction, cette exposition?
En fait, on procède surtout par invitation. Parfois, on a des artistes qui répondent à un appel de projet, mais c'est avec nos partenaires. Là, on travaille avec le Manif d'art, qui est une biennale en art actuel à Québec qui va débuter cette semaine. Et on travaille aussi avec Avatar, qui est un centre d'artistes en art audio et électronique. Mm-hmm. Et on a décidé ensemble d'inviter cet artiste-là, Pavithra. Moi, je connaissais son travail depuis longtemps, mais c'est une artiste qui travaille des objets en mouvement et qui travaille beaucoup les jeux d'ombre et de lumière. Donc, ça nous intéressait de l'inviter à réfléchir à une œuvre pour cet espace-là, parce que notre espace, c'est pas un espace conventionnel de type boîte blanche ou boîte noire dans laquelle on présente des œuvres. Donc, c'est vraiment intégré à l'architecture du bâtiment du Grand Théâtre. Les œuvres, elles côtoient la murale Jordi Bonnet. Donc, il faut vraiment réfléchir les œuvres en fonction de l'espace. Donc, on a invité Pavithra à créer cette œuvre-là qui est vraiment inspirée de l'espace, mais inspirée aussi de la thématique que Manif d'art, là, la biennale, présente, c'est-à-dire la thématique que leur commissaire propose cette année, c'est les forces du sommeil, cohabitation avec les vivants. Donc, c'est vraiment une œuvre qui va réfléchir sur notre rapport à l'obscurité, à la nuit, à l'obscurité pendant l'hiver, donc aux nuits les plus longues et aux journées, au temps de lumière le plus court. Donc, c'est pour ça qu'elle voulait jouer avec ses effets d'ombre et de lumière avec son œuvre.
Est-ce qu'on peut dire que c'est un concept quand même unique en son genre, parce qu'on n'en voit pas souvent de ce genre d'exposition?
Effectivement, on n'en voit pas souvent. Il y a des événements comme le Mois Multi à Québec qui vont présenter des œuvres de ce genre-là. Donc, on est vraiment dans le milieu des arts visuels. On est dans le milieu des arts visuels qui utilisent les nouvelles technologies pour créer des nouvelles formes artistiques. Fait qu'effectivement, là, on peut pas dire qu'on en voit si souvent parce qu'on n'est pas dans des formes traditionnelles des beaux-arts comme la peinture ou la sculpture. On est dans la sculpture, mais cette fois-ci, elle est mise en mouvement par des moteurs, par un système électronique qui va ajouter une dimension à l'œuvre et ça anime l'œuvre puis ça la rend vivante elle-même. Là.
Alors, c'est intéressant. Alors, vous aviez une invitation à faire à nos internautes ou auditeurs de radio pour les convaincre, justement, à visiter ce genre d'exposition spéciale. Qu'est-ce que vous diriez?
Bien, je dirais que c'est un espace très impressionnant à cause de sa monumentalité. Puis c'est une œuvre qui appelle la contemplation, puis qui va vraiment aller chercher... il y a quelque chose d'un peu... qui va aller chercher notre esprit d'enfant. Donc, c'est de venir découvrir cet espace-là qui est immense, puis de venir chercher une part d'émerveillement à contempler cette œuvre-là qui va s'inscrire dans la lenteur, mais qui va vraiment venir chercher, c'est ça, une part d'enchantement, puis qui va nous inviter à ralentir, puis à contempler.
Et jusqu'à quand cette exposition est pour plus de renseignements?
Elle est présentée jusqu'au 28 mai, donc elle va être là pour 4 mois. Il faut visiter le site du Grand Théâtre. Dans l'onglet « Planifier votre visite », il y a une page qui concerne les œuvres technologiques. Et là, il va y avoir il va y avoir des photos de l'œuvre, du texte qui la décrit et éventuellement aussi une vidéo où on va présenter l'artiste et son travail.
Alors, très intéressant. Alors, merci beaucoup, Ariane Plante, commissaire aux expositions au Grand Théâtre de Québec. À la prochaine.
Merci, au revoir.
peu spécial en Afrique du Sud, avec un grand aventurier, voyageur, en l'occurrence Sylvain Guillemin, qui a bien voulu nous accorder cette entrevue et que j'ai le plaisir de saluer. Alors bonjour Sylvain Guillemin.
Bonjour M. Bouchard, ça me fait plaisir d'être ici.
Également. Alors Sylvain, je sais que vous êtes un grand aventurier voyageur. Alors qu'est-ce qui vous a amené dans le voyage en quelque sorte?
Oh, quelle belle question. D'aussi loin que je me rappelle, quand j'étais jeune, je me souviens que ma mère elle nous forçait, mais on aimait beaucoup ça, écouter la fameuse course autour du monde. Et puis tous les dimanches, puis après ça tous les lundis, on regardait ça, puis on commentait les voyages des jeunes en direct, puis... Ça a été la piqûre, puis après ça, ben, quand j'ai rencontré ma conjointe Annie, on a voyagé ensemble, et puis on n'a juste pas arrêté quand on a eu des enfants. Donc, depuis 13 ans maintenant qu'on a deux petites filles, une de 13 et de 11 ans, puis on a juste continué à voyager en famille, comme on faisait avant.
Alors, ça veut dire que ça fait beaucoup de voyages, cela, là.
Oui, oui, on a visité tous les continents, une quarantaine de pays.
Oh là là!
Oh. Ouais, ben, en fait, on compte pas, mais... C'est notre parcours.
Alors, ça veut dire que c'est des passionnés du voyage, en quelque sorte. Et est-ce un pays en particulier qui vous a marqué?
Ah, bon...
C'est difficile à dire, ça, hein?
La question, oui. Ben, il y en a plusieurs. Le Népal pour les montagnes, la Birmanie pour le côté un peu très... comment dire... particulier, là. Donc on a le sentiment d'être privilégié quand on va en Birmanie. La Polynésie française pour les paysages, puis là-bas on dirait que le temps s'arrête. L'Afrique du Sud dont on va parler, un projet absolument fantastique qu'on a fait. Donc il nous marque pour diverses raisons et donc c'est ce qu'on aime des voyages. Puis je pense que notre pays préféré, c'est le prochain sur la liste, probablement.
Et voilà que vous venez de faire mention que vous êtes arrivé en tant qu'aventurier également, mais avec la famille d'abord, en Afrique du Sud. Alors, pourquoi avec la famille?
Oui, bien, d'abord, en 2016, on avait un projet. On est parti en 2017 pendant 6 mois en famille, en Asie et en Océanie. Et puis, on voulait qu'il reste quelque chose hein, de ces voyages-là. Donc, pour combler le après le voyage, on savait pas trop quoi faire pour que les enfants gardent ça en mémoire. Ils avaient 4 et 6 ans. Et puis, c'est là que les aventuriers voyageurs sont rentrés dans notre vie. Donc, on s'est formés, on est devenus des réalisateurs de films de voyage. On a présenté un film sur la Polynésie française, un film sur la Jamaïque. Et puis là, on présente un film sur l'Afrique du Sud. Et puis... l'idée de faire des films, c'est aussi pour nos enfants, pour qu'ils gardent en souvenir un peu les voyages qu'on fait ensemble.
Et j'imagine,
pour nous, c'est une école de la vie pour les enfants. C'est une façon de s'ouvrir au monde, puis d'en apprendre davantage que quand on reste près ou même sur les bancs d'école, quoi.
Justement, vous parlez des enfants lors d'un tel voyage. Alors, j'imagine que c'est une adaptation spéciale. Ça va être une espèce de pédagogie à la fois hors de l'ordinaire avec 6 mois avec 2 enfants.
Ben oui, c'est ça. C'est une pédagogie de tous les jours. Donc, on essaie de combler les vides. Il y a beaucoup de vides en 6 mois. Vous imaginez qu'on n'est pas tout le temps en mode... découverte et aventure. On est en mode famille normale qui habitons dans un autre pays pendant un certain temps. Et les défis quotidiens sont présents en voyage, mais ça vient avec, cet aspect pédagogique qui devient important. Donc, on essaie de par exemple, on va en parler tantôt, mais quand on va dans les safaris, on veut que les filles apprennent les animaux, apprennent les oiseaux, on apprend les directions, on apprend toutes sortes de choses. Ils ont appris la langue un peu. Quand vient le temps de faire l'école à la maison, on essaie d'adapter les mathématiques, le français, aux réalités locales. Et puis, c'est notre façon très... très humble de faire les choses.
Et le fait que vous soyez professeur également, j'imagine que ça doit avoir un certain plus facilement adaptable. Est-ce qu'on peut dire ça?
Oui, Peut-être. Mais moi, je suis professeur au cégep et mes filles sont au primaire. Donc, j'ai réalisé pourquoi j'étais pas professeur au primaire durant le voyage. Parce que la motivation, c'est pas mon fort. Au cégep, ils sont supposés être motivés. Et puis, mais quand même, oui, j'ai peut-être ce côté pédagogique qui aidait beaucoup durant le voyage.
Alors, on va s'arrêter quelques instants, si vous me permettez, Sylvain, puis on va passer directement maintenant sur la destination proprement dite.
Parfait.
Une pause.
Ils allaient tous.
Poursuivons cette belle entrevue en compagnie de Sylvain Guillemin, qui est un grand aventurier voyageur et qui est cinéaste, conférencier également. Alors, Sylvain, vous avez été en Afrique du Sud, produit un excellent, d'ailleurs, film à ce sujet-là. Alors, qu'est-ce que vous avez découvert? D'ailleurs, qu'est-ce que vous avez visité d'abord en premier lieu?
Je peux commencer par le 6 mois. J'ai aimé le 6 mois en voyage. Ça a été d'abord une partie de l'Afrique du Sud. Donc, le premier mois et demi, c'est l'Afrique du Sud du Nord. C'est de cette partie-là dont il est question dans le film présentement à l'affiche. Ensuite, on est allé au Botswana et en Namibie pour un autre mois et demi pour redescendre vers l'Afrique du Sud pour compléter notre boucle pour un autre 3 mois. Donc, c'est une boucle de Johannesburg à Johannesburg. Et dans la première partie du film, du voyage, ce qui est présenté dans le film, c'est vraiment de Johannesburg. Après ça, on est allé vers les Drakensberg, une belle chaîne de montagnes. On est allé vers Sainte-Lucia, en bord de mer, voir au royaume des hippopotames. Et par la suite, on est allé dans le petit pays qui s'appelle l'Eswatini, vous savez, l'ancien Swaziland.
On est allé visiter un peu
ce pays-là pour finir dans le Blyde River Canyon et dans le fameux parc Kruger où on a fait d'innombrables safaris.
Et parlez-nous justement de Johannesburg, là. C'est quoi Johannesburg? Où s'est situé d'abord en Afrique et qu'est-ce qu'on peut découvrir?
Oui, Johannesburg, c'est une ville bien spéciale. C'est une ville assez récente. Hein. Vous savez qu'elle a été fondée dans les années 1880 suite à la découverte de gisements de diamants et d'or dans la région. Donc, il y a eu une affluence de personnes qui sont allées fonder cette ville-là et peupler cette ville-là. Et nous, dans le film et dans le voyage, on a approché la ville par l'histoire, donc par l'histoire de ce pays-là, mm-hmm. et aussi par le township juste à côté de Johannesburg qui s'appelle Soweto. Donc, par la visite du township de Soweto, on a pu aussi voir et montrer aux filles ce qu'était l'apartheid, ce qu'était ce système ségrégationniste.
Hein, on se souvient de cette époque, en effet, oui. Mm-hmm. Ouais. Mais quand on parle de l'Afrique, en revenant un petit peu plus, c'est quand même plus qu'un pays, l'Afrique. C'est un continent, comme on vient. Et une douzaine de pays à l'intérieur de l'Afrique, quand même.
Ben oui, on appelle ça des provinces, mais c'est une... Ben, l'Afrique du Sud est un pays en soi dans lequel il y a plusieurs communautés et cultures qui se côtoient. Bon, le regretté Desmond Tutu a appelé ça la nation arc-en-ciel. Mm-hmm. C'est pas pour rien. Et dans l'Afrique australe, ben là, on n'a pas tout visité l'Afrique australe, mais oui, il y a divers pays qui offrent pour le voyageur des paysages et des cultures absolument, attrayantes.
Alors, on continue sur Johannesburg.
Oui. Mm-hmm. Oui, ben c'est ça. Après ça, Johannesburg, c'est une immense ville et particulièrement, c'est une ville qui est pas portuaire. Donc, le port est à 500 kilomètres, c'est Durban. Donc, c'est une ville improbable. Voilà le mot que je cherchais. C'est une ville improbable en plein cœur des montagnes. Et puis, dès qu'on sort de Johannesburg, on est dans les montagnes, plutôt désertiques, et on se dirige vers l'intérieur du pays. Nous, on s'est dirigé après ça vers le mont Zulu, là, vers le sud.
Alors, mont Zulu, qu'est-ce que vous trouvez à cet endroit?
Ben, c'est dans la région du KwaZulu-Natal, c'est la province du KwaZulu-Natal. Et, entre autres, on a commencé notre exploration du mont Zulu dans la chaîne de montagnes du Drakensberg, une belle chaîne de montagnes qui offre des randonnées absolument fantastiques, même pour les enfants. C'est pas des immenses randonnées, mais des belles randonnées au pied ou au haut des montagnes. On s'est contenté du pied des montagnes là avec les filles. Et puis par la suite, en partant du Drakensberg, en fait, on est allé vers Sainte-Lucie, à l'autre bout de la province, où là, c'est une petite bourgade en plein cœur du gros marais de Sainte-Lucie, où vivent à peu près presque 1000 hippopotames qui viennent même, vous allez être très surpris, ils viennent même manger dans les rues de la ville une fois la nuit tombée, et on a pu côtoyer les hippopotames à quelques pieds, quelques mètres de
oh là là.
Le soir. C'est absolument fantastique.
Est-ce qu'on tient à les conserver, les hippopotames, ou bien si on est porté à les éliminer?
Non, les hippopotames, ils sont bien conservés. Le problème est du côté des rhinocéros.
Ah oui?
Ah oui, les rhinocéros, à cause de leurs cornes...
Oui, ils sont plus dangereux, peut-être.
Pardon?
Ils sont plus dangereux?
Non, c'est que leur corne est vendue sur les marchés asiatiques à un prix de fou. Donc, les braconniers, ce qu'ils font, c'est qu'ils tuent les rhinocéros pour leur couper la corne et la vendre sur le marché. Et en faire des centaines de milliers de dollars juste pour la corne de rhinocéros. Alors que la corne de rhinocéros, c'est un ongle qui repousse. Il pourrait très bien les endormir et puis le couper la corne, mais c'est trop dangereux.
Ils sont très recherchés en quelque sorte.
Exact.
Et c'est notre coin, vous voulez nous faire connaître de ce côté-là?
Ah, ben il y a le petit pays Eswatini, qui est un petit royaume enclavé avec une population très, très, très... Et puis, après ça, ben on est monté vers le nord. Là, c'est le fameux Blyde River Canyon, qui est le troisième plus grand canyon au monde et qui donne des paysages à couper le souffle. Les gens nous disent que dans le film, c'est parmi les plus beaux paysages qu'ils ont vus quand ils ont...
Oh, alors
donc,
c'est à suivre.
Fantastique.
Hey, si vous me permettez, Sylvain, on va s'arrêter encore quelques instants parce que c'est tellement intéressant qu'on va revenir par la suite, après la pause.
Parfait.
Amazing grace, how sweet. that sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see.
Et nous poursuivons cette belle entrevue en compagnie du grand aventurier Sylvain Guillemin, qui nous parle de l'Afrique du Sud et qui va nous transporter dans un bel endroit maintenant. Alors, à quel endroit, Sylvain?
Oui, bien, on finit notre premier parcours en Afrique du Sud dans le fameux parc Kruger. Donc,
un nom très connu, d'ailleurs, oui.
Ah oui, il est très connu. Et puis, bon, on avait fait des safaris avant, mais c'est vraiment dans le parc Kruger où on a fait... des expériences assez fantastiques, parce que nous, c'est un road trip qu'on a fait, donc on avait notre voiture pendant les 6 mois, et c'est ça qui est vraiment intéressant en Afrique du Sud, c'est que on peut faire nous-mêmes les safaris. Donc, on est entré dans le parc Kruger, et en autonomie, on allait à la rencontre des animaux sauvages, des lions, des éléphants, des girafes, des rhinocéros, de tout ça, et c'était un balai absolument... inoubliable. Et puis, je pourrais vous raconter des anecdotes de rencontres d'animaux. À n'en plus finir, mais parmi nos plus belles rencontres, ça a été naturellement les lions, les éléphants tout près. Bref, c'est vraiment, nous, c'est ce qui nous a marqué le plus. Et à notre grand plaisir, les filles, même si c'est très long des safaris, parce qu'on part le matin en voiture, et on roule, on est à la recherche d'animaux au hasard des routes dans le parc, ben les filles ont adoré. Et là, nous, on était vraiment contents de ça, et elles en redemandaient. Donc, on s'est pas privé, on a fait plein de safaris, on a habité à l'extérieur du parc, donc on pouvait entrer dans le parc à tous les jours, et on a même habité dans les camps à l'intérieur du parc, dans deux camps, Satara et Mopani, qui nous permettaient une proximité encore plus proche, parce qu'on était dans le parc, il suffisait de quelques mètres en voiture et on était au cœur du safari. Quoi.
Est-ce que c'est le seul endroit que vous avez fait du côté safari?
Bien, on avait fait près de Sainte-Lucia, il y a aussi des endroits pour faire des safaris. Il y avait le parc Chlouchloué, Mpholozi, ou le parc Isimane-Galisso. Je me trouve bon de me rappeler de tout ça.
Mais bon,
et partout en Afrique du Sud, surtout dans la partie est de l'Afrique du Sud, on peut faire des safaris. Et puis presque dans tous les parcs, on peut le faire en autonomie là, par nous-mêmes. Et ça se fait très, très bien. Les routes sont pavées, les routes principales sont pavées et les routes secondaires sont en terre battue. Et c'est très bien indiqué. Donc, c'est vraiment, je dirais, addictif.
Et pour compléter, Sylvain?
Oui, je pourrais vous parler d'une journée typique là, en safari.
C'est-à-dire, oui, allez-y, c'est intéressant, en effet, oui.
Oui, on se lève le matin avant l'aube pour partir, dès que le portail du camp ouvre, et puis là, on, on amène notre lunch pour arrêter dans une aire de pique-nique à quelque part dans la journée. Et puis, on fait juste se promener et on rencontre des animaux. Et c'est vraiment, comme je le disais tantôt, un ballet. Il faut connaître les animaux et on apprend très vite à les connaître. Mmh. Et un fait particulier, nous, on avait peur des lions. On fermait nos vitres quand les lions étaient tout près de la voiture. Et on a appris que les animaux, quand ils sont dans la brousse ou dans la savane dans d'autres pays, en fait, ils voient la voiture, ils voient les camions de safari comme un tout. Ils ne voient pas les personnes à l'intérieur. Donc, on est en sécurité. Même si les fenêtres sont ouvertes, même si c'est à air ouverte, les animaux voient le véhicule comme un tout, comme un autre animal. Ils ont appris à voir que ce n'était pas un animal dangereux, donc ils le côtoient et ils frôlent les véhicules parce qu'ils ont conscience que cet animal n'est pas dangereux. Il ne faut juste pas sortir du véhicule, c'est la règle de base dans les safaris. Mais pour le reste, on se promène. Il ne faut pas s'approcher des éléphants, ça, c'est un fait. Mais on peut s'approcher de tous les animaux de façon lente, respectueuse, silencieuse. Et c'est vraiment, vraiment...
Oui, c'est vraiment captivant. Alors, vous avez aussi un projet. De quoi s'agit-il?
Oui, ben depuis qu'on voyage avec les filles, ben comme je le disais tantôt, l'idée c'était de combler le après, hein, après le voyage, c'est-à-dire de faire des films. Donc notre projet s'appelle tout simplement Voyager tout le temps. Donc c'est le nom de notre maison de production de films, c'est le nom de notre page Facebook. Si vous voulez nous suivre, vous allez sur Voyager tout le temps. Et puis voilà, c'est ça. Donc l'année prochaine, ben, notre film est présentement à l'affiche dans les cinémas. À partir de tout le mois de mars et une partie du mois d'avril, vous pouvez aller sur le site des Aventuriers Voyageurs pour voir les dates de diffusion et voir notre bande-annonce également. Et je vous annonce tout de suite que l'an prochain, on aura à vous présenter un deuxième film sur le Botswana et la Namibie. Mm-hmm. Et l'année suivante, la partie est de l'Afrique du Sud. Donc, c'est un projet qui ne se termine pas.
C'est des projets plein la tête. Alors, qu'est-ce que vous concluez de tout ça, Sylvain, en tant que voyageur et côté humanitaire également?
Oui, ben je conclue tout ça que, personnellement, c'est peut-être une petite philosophie, mais faut juste pas s'arrêter à nommer les rêves qu'on a. Nous, on a des rêves, puis on a la mauvaise habitude de les réaliser. Je veux dire comme ça. Et puis, c'est ce qu'on fait depuis toujours, surtout depuis qu'on a des filles. On nomme quelque chose et quelques années après, ça arrive parce qu'on prend les moyens que ça arrive, tout simplement. Et puis, c'est là-dessus que je terminerai peut-être ma réflexion.
Intéressant. Alors, on répète pour plus d'informations, Sylvain?
Oui, donc notre film est présentement à l'affiche dans les cinémas du Québec pour les aventuriers voyageurs. Donc, allez sur le site des aventuriers voyageurs, vous allez voir notre bande-annonce et sous la bande-annonce, vous allez voir toutes les dates de diffusion. On va même présenter le film à quelques endroits. Vous allez voir là où les réalisateurs sont présents. Et puis, à partir du mois de juin, le film sera disponible sur le site des aventuriers voyageurs. Donc, vous pourrez le louer en ligne, là, dans le confort de votre salon.
Alors, Sylvain Guillemin, grand aventurier voyageur, cinéaste et conférencier, merci beaucoup de cette belle entrevue. On vous souhaite encore de nombreux voyages.
Merci, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Bouchard. Vous êtes,
à la prochaine.
Très gentil. Merci, au revoir.
I'm learning, Danny Tinga, who love you are. Danny says, I'm learning, Danny Tinga, who love you are. Danny says, I'm learning, Danny Tinga, who love you are.
Dozula, Ula Viva. Dozula, Ula Viva.
C'est un plaisir de rencontrer maintenant Simon Bovin, qui est en fait le relationniste des médias avec la CEPAC, la Société d'établissement de plein air du Québec. Alors, bonjour Simon Bovin.
Bonjour André Bouchard.
Simon, pour ceux qui sont moins familiers, là, c'est quoi les objectifs de la CEPAC ou la vocation de la CEPAC?
La CEPAC, c'est la Société d'État qui gère au nom du gouvernement du Québec et donc pour la population du Québec plus de 50 000 kilomètres carrés de territoires publics, dont certains sont des territoires protégés. Donc, on parle des parcs nationaux, de réserves fauniques et d'établissements touristiques, 46 établissements au total pour lesquels la CEPAC a la mission de rendre ces territoires-là accessibles à la population, mais aussi de les préserver, de les conserver pour que les générations futures puissent, à leur tour, elles aussi, en profiter.
Simon, je sais qu'on est en pleine période de relâche à certains endroits, et d'ailleurs, déjà, ça l'a été il y a quelque temps. Alors, à quoi faut-il s'attendre à la CEPAC pour cette période de la saison?
Bien, on a une multitude d'activités là, qui sont offertes dans les établissements de la CEPAC. On a différentes activités là, de randonnée, par exemple. Les activités diffèrent selon la région dans laquelle on est, parce qu'on sait qu'à l'heure actuelle, on a un hiver un peu moins généreux en neige, disons, ce qui fait en sorte que parfois, il y a des endroits où les gens s'attendaient à cette période-ci de l'année à pouvoir, par exemple, faire du ski de fond ou de la raquette, et où là, Mère Nature est moins de notre côté, et qui peuvent donc se rabattre sur, par exemple, la randonnée, qui reste l'activité la plus populaire à la CEPAC pour justement découvrir les territoires qui sont mis à la disposition des gens. Et on a aussi différentes activités qui sont préparées plus spécialement pour la relâche, et qui vont permettre aux gens là, de venir découvrir, là, selon les destinations choisies, un peu la faune, la flore de chaque établissement. Souvent, c'est animé par des gardes-parcs naturalistes, et ce sont des activités qui diffèrent, encore une fois, là, selon la destination dans laquelle on veut se rendre. Et pour savoir exactement ce qui est offert, je suggère aux gens de se rendre sur le site de la CEPAC, au cepac.com, pour voir ce qui est accessible et ce qui peut être fait lors de ces journées en fonction là, du parc national qu'ils souhaitent visiter pendant les vacances scolaires.
Mais quelles sont les principales régions au Québec où la CEPAC, pied à terre?
Ah, c'est pratiquement partout, là, en bas du 50e parallèle, là, c'est-à-dire on en a en Abitibi, on en a dans l'Outaouais, on en a dans les Laurentides, dans Lanaudière, on en a dans Portneuf, on continue Charlevoix, Lac-Saint-Jean sur la Haute-Côte-Nord, en Gaspésie, Bas-Saint-Laurent, Chaudière-Appalaches, Estrie, région de Montréal, au centre du Québec, donc on en a... Comme je disais, on a 46 établissements différents. Et une des choses qui est quand même intéressante, c'est que pour les différents parcs nationaux de la CEPAC, pendant la relâche, la ministre du Sport, du Loisir et du Plein Air, Mme Isabelle Charest, a annoncé en décembre qu'il y avait 3 journées par semaine d'accès gratuit dans les parcs nationaux pour la période hivernale.
Alors, parlez-nous de ces journées, justement, à quel moment ça va être possible?
Bien, pendant la relâche, notamment pour le temps qui reste, là, les 5, 6 et 7 mars, l'accès est gratuit dans tous les parcs nationaux de la CEPAC, évidemment au Québec. Donc, c'est toujours gratuit, les parcs nationaux, pour les 17 ans et moins. Les enfants sont toujours admis gratuitement, puis il y a une multitude d'équipements qui leur est prêté gratuitement. Mais là, pendant ces journées-là, c'est gratuit non seulement pour les enfants, mais pour tout le monde. Donc, on convie les gens plus particulièrement à venir lors de ces journées-là. Et en plus, il y a eu une seconde mesure qui a été annoncée là, par la ministre, justement, en lien avec la relâche pour faire bouger les gens. C'est que là, non seulement l'accès est gratuit pour tout le monde pendant ces journées-là, mais aussi l'équipement, la location d'équipement va être gratuite. Donc, c'est un incitatif supplémentaire aux gens pour venir profiter de ces territoires naturels-là qui sont d'une beauté à couper le souffle. En plus, ils vont pouvoir le faire à petit budget pendant la relâche. Les gens cherchent souvent des choses à faire. Ça devient une belle option, là.
Mais quand vous parlez de gratuitement, ce qu'on peut dire, c'est que toutes les activités sont gratuites.
Ouais, toute fin pratique, là. Je veux dire, si vous allez dans un parc, déjà, l'entrée va être gratuite. Si vous louez, par exemple, selon les endroits où vous êtes, là, mais si le ski de fond est accessible, si la raquette est accessible, les crampons, les vélos à pneus surdimensionnés, l'allocation d'équipement en temps normal qui est tarifé là, pour les adultes, lors de ces trois journées-là, bien, est offerte gratuitement aux endroits, encore une fois, où ça va être possible là, de pratiquer ces activités-là, parce que, comme je vous dis, l'hiver est un peu plus capricieux cet hiver, cette année. Mais donc, partout où c'est possible, l'allocation d'équipement va être gratuite pour tout le monde.
Alors, c'est intéressant. Alors, répétez votre invitation et pour plus d'informations.
Bien, on invite les gens à venir en grand nombre pendant la relâche, venir voir les activités qui ont été préparées spécialement pour ça, profiter du fait que l'accès est gratuit et que la location d'équipement est gratuite pour les 5, 6 et 7 mars. Et pour savoir exactement ce qui est accessible puis connaître les conditions de neige, conditions météo, j'invite les gens à se rendre au cepac.com où chaque établissement a sa page avec le détail de ce qui est offert puis les conditions météo. C'est quelque chose qui est mis à jour quotidiennement, donc les gens peuvent savoir à quoi s'attendre.
Alors, merci beaucoup, Simon Boivin, relationniste avec les médias pour la CEPAC. Alors, à la prochaine, puis on aura l'occasion de revenir pour les prochaines saisons, ou la prochaine saison.
Merci pour l'invitation.
Au revoir.
Au revoir. Oh,
maintenant une belle visite dans la région de Bécancour, plus précisément au Musée de la biodiversité du Québec, en compagnie de Coralie Lacourcière, qui s'occupe des relations publiques et que j'ai le plaisir de saluer. Alors bonjour Coralie Lacourcière.
Bonjour Monsieur Bouchard, ça va bien?
Oui, ça va bien vous-même.
Oui, très bien.
Alors, on sait que le Musée de la biodiversité a pris beaucoup d'ampleur plus depuis quelque temps, mais pour nos internautes ou auditeurs de radio qui seraient moins au courant, c'est quoi d'abord les objectifs de la biodiversité ou du Musée de la biodiversité?
Oui, le Musée de la biodiversité, en fait, on est rendu à 26 ans cette année. Et notre objectif principal, c'est vraiment d'expliquer aux gens c'est quoi la biodiversité et vraiment de sensibiliser les gens sur leurs actions et sur qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour mieux aider la nature, spécifiquement au Québec. Donc, on a plusieurs expositions qui changent vraiment très souvent, qui parlent de plein de facettes de la biodiversité.
Et je sais que j'avais un événement assez spécial présentement, là. Les éléments se déchaînent. Alors, c'est quoi? De quoi s'agit-il?
Oui, alors dans notre exposition temporaire, dans nos expositions permanentes, excusez-moi, on va aller parler des quatre éléments. Donc, on a attribué à chacune des salles d'exposition un élément différent, le feu, l'eau, la terre et le vent. Et on va faire un parallèle sur la biodiversité et les éléments via un cahier d'activité. Donc, les gens vont pouvoir explorer l'exposition vraiment librement et essayer de répondre aux questions par rapport aux éléments. À la fin, ils vont pouvoir participer à un concours, si jamais ça leur intéresse. Donc, ceux qui auront réussi à vraiment compléter l'activité vont pouvoir peut-être gagner des passes pour le Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke.
Alors, c'est une activité assez spéciale au centre du Québec, quand même.
Exactement, à Bécancour, donc à 5 minutes du pont La Violette.
Et si, est-ce qu'il y a d'autres expositions parallèles à cet événement?
Oui, tout à fait. On a deux autres expositions à l'intérieur du musée, soit la salle des sens, qui est un espace d'exploration, et on a une nouvelle exposition temporaire sur les ours du Canada, qui est arrivée il n'y a même pas 2 mois. Donc, c'est une toute nouvelle exposition qui est vraiment magnifique.
Parlez-nous un petit peu, c'est quoi ces deux expositions?
Oui, donc la salle des sens, c'est un espace d'exploration où on veut vraiment aller voir différentes facettes de la biodiversité, mais par les sens. Donc, on va écouter les chants des oiseaux, on va toucher des fourrures, on va sentir des drôles d'odeurs. Ça prend une quinzaine de minutes à faire, mais c'est vraiment un bel espace. Et l'exposition sur les ours nous vient du Musée du Fjord au Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Mm-hmm.
Et va parler des 3 espèces d'ours qu'on va retrouver au Canada, soit l'ours polaire, le grizzly et l'ours noir. Pour aller parler de diverses facettes de leur réalité.
Il est question également de collaboration avec le Musée Borealis. Alors, est-ce qu'on peut avoir plus de renseignements à ce sujet-là?
Oui, tout à fait. On est en train de développer un beau partenariat. Que pour ceux qui le savent, le Borealis actuellement est en travaux, donc le musée est fermé. Donc, ils vont envoyer une partie de leur équipe durant certains jours de la semaine de relâche chez nous pour pouvoir faire une activité à travers nos salles. Donc, c'est encore en développement à savoir quand exactement, mais je peux vous jurer que ça va être très, très intéressant.
Et j'avais une activité un peu spéciale, l'écho des origines, est-ce que ça existe toujours?
Oui, tout à fait. Parce que ça, c'est notre circuit interactif de soir qui est dans la forêt. Et comme c'est interactif, très technologique, c'est vraiment l'été que ça a lieu. Donc, de juin à octobre, ça va être de retour pour la Saint-Jean-Baptiste.
Donc, durant la saison hivernale, c'est en pause?
Exactement, oui. Donc, les stations informatiques sont hivernées à l'intérieur de la forêt. Le courant est coupé pour être sûr de ne pas s'assurer d'avoir des bris.
Mm-hmm. Et j'avais une invitation à faire à nos auditeurs ou internautes. Qu'est-ce que vous diriez pour les convaincre justement à visiter votre musée assez spécial? Qu'est-ce que vous diriez?
Particulièrement pour la semaine de relâche, en tout cas, moi j'invite vraiment les familles à venir voir ça parce que c'est une activité vraiment très ludique qui est libre. Vous pouvez venir quand vous voulez, donc il n'y a pas de stress à avoir. Vous pouvez faire l'activité comme bon vous semble.
D'ailleurs, j'avais beaucoup de visiteurs scolaires également, selon mes renseignements. Est-ce que c'est vrai?
Oui, tout à fait. Ça fait partie à peu près de la moitié de notre achalandage. Donc, on a très, très souvent des groupes scolaires. D'ailleurs, notre mois de mai et juin est plein de papins. Donc, on va avoir des jeunes tous les jours de semaine.
Alors, c'est intéressant, en effet. Alors, pour plus d'informations, qu'est-ce qu'on doit faire, Coralie?
Bien sûr, aller sur notre site Internet, donc au www.biodiversité.net. Donc, on va y mettre vraiment toutes nos nouvelles mises à jour sur la page d'accueil.
Et pour, alors, merci beaucoup pour tous ces renseignements, puis je vous souhaite, je vous souhaite de nombreux visiteurs, mais vous en avez beaucoup déjà. Alors, on vous en souhaite encore plus si nécessaire. Si.
Ça fait toujours plaisir de vous recevoir.
À la prochaine, merci beaucoup, au revoir.
Merci beaucoup, M. Bouchard, au revoir.
Et voilà qui termine, chers internautes, votre émission Voyage-Voyage sur les ondes de votre site préféré, fidèleauposte.com. J'espère que vous avez apprécié. Vous avez des commentaires ou suggestions? Il me fera plaisir de les recevoir au courriel suivant, andrebouchard84@gmail.com. Là-dessus, il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne semaine remplie de belles découvertes ici et là. Et n'oubliez pas que si vous avez à voyager, bien consultez votre agent de voyage, les offices de tourisme ou les différentes organisations touristiques. Là-dessus, ici André Bouchard qui vous dit à la prochaine et bonne semaine.